Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Studio Tamani, voici nos informations en français.
Tamani, Tamani, Sidjo Tamani.
Et c'est avec Mariam Maïga la présentation. Selon un rapport sur l'écart entre les genres du Forum économique mondial, sur 109 pays étudiés, 103 ont réduit les disparités entre hommes et femmes. Le Mali reste parmi les pays où la situation des femmes s'est dégradée ces dernières années. Pourtant, l'Assemblée nationale a voté une loi qui institue un quota de 30% pour promouvoir le genre dans l'accès aux fonctions nominatives et électives. Perçu comme le résultat d'une longue lutte des associations féminines, la loi a été favorablement accueillie par la présidente de la Fédération nationale du collectif d'organisations féminines. Fin de la question autour de la présence d'uranium dans le pays. Selon le ministre des Mines, Boubou Cissé, il n'y a pas d'uranium au Mali et les gisements de ce minerai découvert ne sont pas commercialement exploitables. L'extraction minière détruit l'environnement. Les produits utilisés sont nuisibles à la santé humaine et animale. Pour le ministère des Mines, malgré ces méfaits, le secteur contribue quand même au développement local. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue. Les inégalités entre hommes et femmes diminuent lentement dans le monde au cours de la décennie dernière. Selon le rapport annuel sur l'écart entre les genres publié par le Forum économique mondial, sur les 9 pays étudiés, 103 ont réduit les disparités entre hommes et femmes. Mais 6 ont connu une détérioration des perspectives offertes aux femmes. C'est le cas du Mali. C'est dans ce contexte que le Parlement a adopté il y a quelques jours une loi relative à la place des femmes au sein de la fonction publique et dans la représentation politique. Famoussa Sidibé.
Dans son article premier, la loi fixe une proportion d'au moins 30% pour des personnes de chaque sexe pour les nominations dans les institutions de la République ou dans les différentes catégories de services publics au Mali par décret, arrêté ou décision. L'article 2 détermine les catégories de fonctions électives, y compris les conditions dans lesquelles la recevabilité d'une liste de candidatures est soumise à la proportion maximale de 70% de femmes ou d'hommes. L'article 3 renvoie à un décret pris en Conseil des ministres pour définir les modalités d'application du dit projet de loi. Le projet a longtemps divisé les élus, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition. Durant les débats, la société civile s'est fortement mobilisée pour faire pression sur les élus. Finalement, le texte défendu par le ministre Sangaré Oumba a été adopté par 115 voix pour, 22 contre et 3 abstentions. L'adoption de la loi ne signifie pas à ce stade sa mise en œuvre immédiate. La prochaine étape doit passer par sa promulgation par le chef de l'État. Puis le texte sera soumis en Conseil des ministres pour en déterminer les modalités d'application. Les députés ont demandé que ces procédures ne tardent pas. Le ministre s'est engagé à aller dans ce sens.
Les associations de promotion des femmes saluent le vote de la loi. La présidente de la Fédération nationale du collectif d'organisation féminine, en abrégé FENACOF, estime que les élus et le gouvernement ont fait preuve de courage. Madame Dambélé Oulematousso est au micro 2, Famoussa Sidibé.
C'est une disposition qui permet à la femme d'être éligible et puis cela va lui permettre vraiment d'assurer un peu sa représentativité, n'est-ce pas, à bien des niveaux, que cela soit au niveau électif ou nominatif, quoi. Qui privilégie, n'est-ce pas, notre combat. Les femmes, dans beaucoup de cas aussi, ont été des marchands de promotion, mais ce sont vraiment des cadres qui sont dans les tiroirs. On se demande même est-ce qu'il y a des femmes cadres dans ce pays. Moi, je ne peux que rassurer, n'est-ce pas, les religieux doivent être plus compréhensifs, doivent être plus indulgents par rapport à la situation des femmes qui n'a fait que trop perdurer. Maintenant, par rapport à notre rôle social, là, si par exemple, moi, en partant au bureau, ça n'arrange pas ma famille, je pense qu'on peut avoir des mécanismes sociaux qui vont faire en sorte que je puisse arriver à jouer et ce rôle, n'est-ce pas, dans la famille et aider, n'est-ce pas, mon pays par rapport à mes compétences et à mon expertise.
Les leaders religieux musulmans déclarent prendre acte du vote de la loi sur le quota de représentativité des femmes. Pour le porte-parole du Haut Conseil islamique, le Mali est un pays laïque et par conséquent, le Haut Conseil n'a pas à commenter cette décision. Issa Kaoudjim est au micro de Famoussa Sidibé.
Ce projet de loi a été présenté au Conseil islamique du Mali, qui a eu à donner un avis. L'avis, c'est que c'était de dire est-ce que l'élection concernait les imams, les associations islamiques ou alors les chefs de village et autres sud, les chefs religieux, c'est-à-dire nos valeurs traditionnelles et sociétales. Et ils ont été très clairs que non, ceux-ci ne sont pas concernés. Donc ça concerne seulement les postes nominatifs et les élections. Et sur ce point, le président du Haut Conseil islamique du Mali a pris acte en espérant que dans la République, dans la démocratie, et cela revient aux partis politiques, à la société civile, à tout le monde de donner un avis. Les musulmans ont estimé à travers le Haut Conseil islamique du Mali, donc il n'y a pas de tollé à la matière, mais seulement nous espérons que si cela peut apporter alors un plus à la cohésion sociale, au vivre ensemble, à l'émergence d'une société qui se modernise, mais qui ne rejette pas nos valeurs sociétales. Nous estimons que le Haut Conseil islamique, à travers le président, a estimé que cela ne concerne pas du tout alors l'exclusivité du Haut Conseil islamique du Mali.
Réagissez à toutes ces informations sur la page Facebook et le compte Twitter de Studio Tamani.
Tamani.
Il n'y a pas d'uranium au Mali. C'est du moins ce qu'a déclaré le ministre des Mines lors de l'émission Grand Dialogue enregistrée au CICB. Selon Boubou Cissé, le gisement d'uranium qui a été découvert dans le pays n'est pas commercialement exploitable. Écoutons le ministre des Mines, Boubou Cissé.
Au-delà de l'or dans notre pays, il y a deux autres minerais qui sont exploités, même s'ils sont exploités à petite échelle. Il s'agit des phosphates. Dans la zone de Bourem, il y a une unité de production là-bas qui produit du phosphate. Bientôt, nous allons aller vers l'exploitation de manganèse, toujours dans le nord, dans la zone de Ansongo. Et évidemment, il y a les calcaires aussi que l'on exploite. Maintenant, l'uranium, on n'y est pas encore. Il y a une société canadienne qui a un titre de recherche sur l'uranium, le cuivre et l'argent, qui a fait des travaux d'exploration assez avancés, mais qui est arrivé à un résultat qui est que bon, le gisement sur lequel ils sont tombés n'était pas commercialement exploitable. À moins que l'on élargisse les ressources, les réserves, je ne pense pas qu'on aura vers l'exploitation de l'uranium dans Faléate comme il était prévu il y a quelques années. Le pétrole, il y a quelques bonnes nouvelles. On est sûr qu'il y a du pétrole dans notre pays. La question est de savoir est-ce que ce pétrole est commercialement exploitable et dans quelles conditions.
Un forum sur les énergies renouvelables a commencé ce matin à Bamako. La transition énergétique vers les énergies renouvelables pour atténuer les effets du changement climatique a été au centre des débats. Cette rencontre va être suivie par des journées portes ouvertes de l'Agence des énergies renouvelables au Mali qui vient d'être créée. Mamadou Frankali Keïta, ministre de l'énergie et de l'eau, est au micro de Fatoumata Togola.
Le Mali aujourd'hui dispose d'une puissance de 700 MW en hydroélectricité non exploitée. Le Mali est l'un des pays les plus ensoleillés de l'Afrique de l'Ouest. 300 jours d'ensoleillement avec une radiation de 7 kWh par mètre carré. Donc cet avantage est insuffisamment exploité pour le Mali. Nous avons décidé d'hybrider toutes les centrales thermiques qui se trouvent sur notre territoire. Déjà, nous avons plus de 5 centrales en exploitation. Nous le permettons de concéder de l'énergie du Mali. Les centrales hybrides, c'est que nous changeons les centrales thermiques en centrales solaires et thermiques. Nous ajoutons la production solaire sur les centrales qui existaient. Cela a l'avantage de réduire les coûts de production et de diminuer les dégagements des gaz à effet de serre.
Le programme du Forum environnemental national 2015 à Kayes et à Sikasso a commencé ce matin. Ce forum vise à sensibiliser les acteurs locaux des cercles de Bougouni, Yanfolila et Kayes sur la gestion durable des ressources forestières face aux effets des changements climatiques. Les recommandations issues de ce forum permettront d'enrichir la participation de la société civile malienne à la COP21 de Paris en décembre prochain. Parlons toujours d'environnement, cette fois-ci du salon consacré à l'exploitation minière qui a débuté mardi à Bamako. L'impact environnemental est réel, c'est le cas de l'orpaillage qui détruit l'environnement. Selon le secrétaire général du ministère des Mines, les produits utilisés pour l'extraction de l'or sont nuisibles à la santé humaine et animale. Il estime toutefois que malgré ces méfaits, le secteur contribue au développement local. Mamadou Traoré, secrétaire général du ministère des Mines, est au micro de Mohamed Salaha.
Les orpailleurs défrichent, ils font des galeries et malheureusement ils les font sans revenir, rétablir et restaurer l'environnement. Donc les orpailleurs utilisent des produits chimiques pour la récupération de l'or. Ces amalgames, justement, ils sont très dangereux, très nocifs pour la santé. Parce qu'il y a là-dedans un peu de mercure, un peu de cyanure, et qui sont des produits considérés dangereux pour la vie et la santé des populations. Non seulement ils détruisent l'environnement, les champs qui étaient dédiés initialement à l'agriculture ne sont plus praticables. Les pistes qui étaient les zones d'élevage, de parcours des animaux, ne sont plus possibles parce qu'ils ont créé des galeries. Et le risque en hivernage, c'est que les hommes tombent dans ces galeries, ou bien les animaux y tombent. Et nous pensons qu'il y a ces effets. Mais mieux, ils vont laver les produits, le minerai, souvent au bord des cours d'eau. Les eaux sont contaminées et pourtant, c'est de l'eau que les populations consomment.
Studio Tamani, financé par l'Union européenne et les gouvernements de la Suède et du Royaume-Uni.
Écho de nos régions, une délégation nationale accompagnée par la MINUSMA est arrivée à Gundam afin d'identifier des sites de cantonnement dans la localité. Selon le premier adjoint du maire de la commune, c'est le quartier de Badarabangu qui serait choisi. Selon la même source, cette délégation doit identifier le site de cantonnement pour toute la région de Tombouctou. Toujours à Gundam, cette fois-ci pour parler du démarrage de la campagne de vaccination contre le paludisme qui sera effective demain. Plus de 3400 enfants sont concernés par cette campagne qui va s'étendre du 20 au 24 novembre. Plus de 400 agents, soit 4 agents par village, seront déployés dans le cercle, selon le président du conseil de cercle. Toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement de cette opération. Le taux de prévalence du paludisme est de 62% dans la région de Sikasso. Cette information a été donnée ce matin au cours de l'atelier de bilan des résultats à mi-parcours du projet Kenya Djemunkan. Ce projet est financé par l'USAID et couvre la période 2014-2018. La quarantaine de participants va élaborer un plan de communication destiné aux populations pour améliorer le taux de prévalence. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Mais tout à l'heure, c'est le grand dialogue. C'est Lufumba, bonsoir.
Bonsoir.
Qu'avons-nous au programme pour ce soir?
Maria Maïga, la scolarisation de la petite fille au Mali, c'est le sujet du grand dialogue de ce jeudi. La question fait débat depuis des années. La situation a-t-elle évolué à ce jour? Si oui, dans quel sens? Et sinon, à quel niveau se situeraient les blocages? C'est pour répondre à ces questions et à bien d'autres que nous avons invité quatre personnes fortement imprégnées du dossier. Madame Diallo Fanta Camara, ancienne ministre de l'éducation, président d'honneur de l'ONG FAWE, Amadou Samake, directeur national adjoint de l'enseignement fondamental, Madame Maïga Kadiatou Babi de l'ONG Agir et Charlotte Sedel qui est consultante internationale spécialisée en éducation.
Sédou Fomba, à très vite.